création on air. On air. On air. Creation on air.
Bonsoir. Tout commence par une annonce pour un casting. Véronique Aubouy, réalisatrice, cherche jeunes actrices, possibilité acteurs, entre 18 et 23 ans, pour interpréter le rôle principal dans son long métrage Inconsolable. Un accent léger ou prononcé est bienvenu. S'agissant d'un personnage ayant existé, une ressemblance physique ou une attitude ressemblante avec le personnage est indispensable. Suit une photo prise en 1932. Ambivalente. Des cheveux coupés à la garçonne. Un être androgyne, forte présence, regard absent et hypnotique. Des yeux cernés. L'arrondi du menton qui tranche avec les angles vifs du col. Les lèvres fermées au-dessus de la chemise ouverte sur un cou élancé. Éclairage latéral, laissant dans l'ombre le côté droit du visage. Un visage inquiet et inquiétant. Elle ne regarde pas, mais dit impérieusement « Regarde-moi ». Le personnage s'appelle Anne-Marie Schwarzenbach. Ella Maillard partage avec elle en 1939 un voyage en Afghanistan et témoigne « Je l'ai vu placer successivement 7 feuilles blanches dans la machine à écrire avant qu'un paragraphe ait atteint le dessin parfait qui seul pouvait la satisfaire. Écrire était le seul rite de sa vie, elle y subordonnait tout. » De son côté, Anne-Marie écrit « Plutôt qu'une aventure et une excursion dans des régions inhabituelles, le voyage me semble être une image condensée de notre existence. » Pascal Nivelle, de son côté, écrit pour Libération « Dans ce pays hanté de silhouettes tristes et fantomatiques, enfouies sous les tchadors, on la prend pour un homme et cela la réjouit. » Claude Bourdet, en 1942, dit « Que sa voix était basse et douce, un peu brisée. » Ce soir, Véronique Aubouy et Véronique Lamandour recherchent la voix de celle qui n'a pas été enregistrée. Ce que la cinéaste cherche aussi, et le film qui a suivi l'a incarné avec force, c'est le charme infini que dégageait Anne-Marie Schwarzenbach.
Les voix d'Anne-Marie.
Je m'appelle Naïma Benayed, j'ai 28 ans, j'habite à Londres depuis quelques mois. Avant j'habitais à Grenoble, avant j'habitais à Paris, avant j'habitais à Marseille, avant j'habitais à la campagne dans un petit village qui s'appelle Lux.
Alors ça tourne, j'ai 23 ans, je vais en faire 24 le 22 mai. J'ai la double nationalité, je suis espagnole et française. Je suis née à Madrid et j'ai vécu là-bas à 17 ans. Et puis après, on a déménagé avec mes parents quand j'avais 17 ans au Pays Basque. Et là, j'ai commencé... au début, j'étais dans les sciences parce que je suivais un peu le parcours de ma mère. Et puis, j'ai changé après, en deuxième année, et pourtant j'avais de bonnes notes. Et je suis partie dans des études d'art. Et je suis partie à Bordeaux, j'ai étudié là-bas un peu de l'histoire de l'art, mais j'ai eu des problèmes personnels, j'ai arrêté, j'ai quitté, j'ai voyagé, j'ai des problèmes familiaux, et je suis tombée aussi malade. Je me suis lancée dans la photographie, dans l'écriture, et après des années un peu difficiles, de beaucoup de mouvements, j'ai réussi à m'inscrire dans quelque chose d'un peu plus stable, même si ce n'est pas très stable. Mais et j'étudie les lettres et le cinéma.
Voici Naïma qui vient passer le casting.
Bonjour.
Voilà, François qui va faire la musique.
D'accord.
Et Véronique, donc, qui est notre assistante.
Ouais.
Donc moi j'ai un projet de film qui s'appelle Inconsolable, qui est un portrait en 10 journées de Anne-Marie Schwarzenbach, portrait à travers sa vie, et donc qui se passe dans plein de lieux différents.
Donc et... c'est pas 10 jours à la suite, c'est 10 journées.
Ouais, 10 journées prises dans sa vie et pas dans l'ordre.
D'accord.
Voilà. Parce qu'en fait, c'est un personnage que dès le début j'ai voulu aborder sous forme fragmentaire, puisque c'est une femme qui a assumé complètement les multiples facettes de sa vie et de multiples crises d'identité aussi. Elle était à la fois une grande bourgeoise, une femme qui a affirmé ouvertement son homosexualité, antifasciste, grande voyageuse. Donc elle était à la fois, et bien sûr, elle écrivait, et elle était pleinement tout ça, à chaque fois.
Donc là, c'est ma sortie. Ah, ouais.
Bonjour. Je suis désolée pour le retard.
Il n'y a pas de problème.
Bon, alors, on va donc... Si vous voulez bien, d'abord vous présenter.
Oui. Hein,
vous vous présentez, vous faites une courte présentation, voilà, de vous, d'où vous venez.
Oui. Hein,
et puis après, je vous demanderai d'autres petites choses.
Je me présente. Je m'appelle Sophia Maria Ephraimson. Je suis suédoise. Je suis comédienne et j'habite à Paris. J'ai quitté la Suède il y a 10 ans et j'ai vécu à... Aix-en-Provence, dans le sud. Après, je suis allée à New York. J'ai fait une école du théâtre là-bas. Et je suis venue à Paris, je crois qu'il y a 6 ans maintenant. Le temps passe vite. Voilà.
Et donc récemment, vous avez joué dans une pièce ?
Oui, je joue...
Bonsoir, Michael.
Oui, c'est ça.
Véronique.
Enchantée.
Oui, 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 allez-y, je vais vous guider après. On est déjà en train d'enregistrer quelqu'un.
D'accord.
Bon, je vais vous faire passer discrètement dans la cuisine. Non.
Je la comprends.
Je vais passer dedans.
Parce que... on dit que celui-ci est contre nature. Mais pourquoi les gens qui veulent pas vivre et pourquoi ils doivent vivre parce que c'est comme ça?
Est-ce que vous pouvez me raconter quelque chose, une anecdote de votre vie et si possible, colorer, amplifier un peu cette anecdote avec une caractéristique d'Anne-Marie Schwarzenbach? Je crois que vous avez reçu une biographie un peu subjective que je vous ai envoyée et vous avez peut-être pu vous en inspirer.
Il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie qui m'a rendue très triste. Et je crois qu'Anne-Marie Schwarzenbach, elle a vécu des choses... elle a eu une vie de bourgeoise, mais à la fois, je pense qu'elle a une douleur dans elle et je peux ressentir ça moi aussi. Je pense que j'ai eu une enfance très, très bien avec mes deux parents, mon frère, ma sœur en Suède, qui est un peu comme la Suisse, en fait, très propre, très beau, avec les lacs, la nature. Et quand j'avais 16 ans, j'ai... malheureusement, j'ai perdu mon père. Et ça a été très dur. Déjà parce que j'avais 16 ans, je pense que c'est un âge où on se cherche énormément comme une jeune fille. On est un peu dans la révolution, on a envie de provoquer ses parents et son entourage. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé, en tout cas. Moi, j'avais été très, très jeune fille ado, révolutionnaire... même si j'avais pas forcément des raisons. Et au milieu de tout ça, je me suis disputée avec mon père. Et le lendemain, il était mort. On n'a jamais pu se réconcilier. Et à la fois, je m'en sors très bien, je vis très bien, mais il y a toujours une douleur que je porte en moi.
Anne-Marie Schwarzenbach a perdu son père en novembre 1940.
Je savais pas.
Et en fait, elle a été très très bouleversée de ça, d'autant plus qu'elle était à ce moment-là aux États-Unis et que sa mère lui avait interdit de revenir en Suisse. Lui avait fait comprendre, enfin fait même dire qu'elle était persona non grata. Et donc elle était exilée. Et
elle voulait voir son père et elle n'a pas pu le voir avant de mourir. Donc il y a eu aussi cette grande, grande douleur.
Ouais. Même le fait d'en parler, ça me fait remonter des choses. Mais même si le temps passe, il y a longtemps maintenant. Je ne savais pas. Ouais. Elle avait quel âge ?
En 1940, elle avait 32 ans.
32 ans. Elle avait de bons rapports avec son père ?
Oui, enfin, disons que ses parents avaient des idées politiques très différentes. Ils soutenaient, enfin, ce n'est pas prouvé ouvertement qu'ils soutenaient financièrement les nazis, mais en tout cas, ils étaient pro-nazis. Ouais. Donc évidemment, elle, qui était dans la lutte antifasciste depuis les années 30 déjà, enfin, dès le début de l'émergence du mouvement national-socialiste,
ouais.
Et donc ils s'opposaient terriblement. Dans ce sens-là. Mais l'éternelle déchirure d'Anne-Marie, c'était justement d'être à la fois très indépendante de ses parents et en même temps d'avoir besoin de leur affection.
Mm.
Et son père la soutenait particulièrement. Enfin, voilà, plus que sa mère qui l'attaquait beaucoup et qui était dure avec elle et qui était très intransigeante. Vous savez quoi, on va faire la scène, là. Vous l'avez regardé,
oui,
vous avez eu le temps ?
Ouais.
D'accord. Je me demandais si peut-être... Soit toi, soit Michael, puisque nous avons un garçon sous la main.
Ah bah oui.
Ah mais c'est une scène c'est la scène des filles en fait.
Vous m'avez donné la scène de Klaus.
Ah ben bah, la
oui,
scène
c'est
de Klaus.
Donc c'est parfait. Qu'il est censé faire aussi.
Non, lui il fait la scène de. Ah si, la scène
si.
De Klaus aussi. Ah oui.
Si si.
Ah ben bah, d'accord. Donc comme ça je vais lui demander. Enfin je vais lui demander s'il
ouais.
est d'accord. Alors j'aimerais beaucoup si vous êtes d'accord. En fait, bon, tout à l'heure, hein, vous ferez la scène, mais que vous donniez la réplique après tout.
Allons-y.
Hein ?
Allons-y, volontiers.
Magnifique. Plutôt que de patienter dans une cuisine spéciale.
Mais qui n'est pas d'une des charmes toutefois. Vous avez un peu. Bonjour.
Bonjour. Alors, comment on fait ? Parce que c'est une scène dans laquelle nos deux personnages, donc Klaus Mann, donc. Hein, et Anne-Marie sont partis à Moscou en 1934, en août 1934. Ils sont allés assister, invités. Ils ont été invités, comme beaucoup d'intellectuels allemands, enfin européens en tout cas, au premier congrès international des écrivains. Et donc, ils sont. C'est une période où ils sont très proches tous les deux. Vraiment, ils ont une amitié très très forte. Même éventuellement, enfin, ils ont pu penser peut-être à un moment de transformer cette amitié en mariage, chacun sachant que l'autre préfère les gens de son propre sexe. Mais voilà, c'était vraiment des gens qui étaient très très proches, ils se ressemblaient beaucoup en fait, ils avaient plein de points communs. Voilà, ils sont un peu comme des frères. Enfin, en tout cas, c'est, voilà, dans cette scène, il y a cette idée, qu'est-ce que c'est que l'amitié entre un homme et une femme, qui n'est pas une amitié ambiguë. Quoique. Grande proximité, grande fraternité. Voilà, et en fait, quand je dis d'une intimité partagée, c'est que voilà, ils prennent de la drogue ensemble. Hein. C'est ce qu'ils appellent le ton.
Très bien. C'est alléchant.
Alors, vous préférez être assis, debout
Ça me va. Enfin, tout me va, madame.
Oui, très bien.
Mais Anne-Marie peut peut-être aller s'asseoir à un moment dans le fauteuil. Hein.
Oui. Hein. J'allais ce soir au début, donc peut-être je peux m'asseoir, moi.
Alors, je vais filmer, donc attendez que je branche ma caméra. Bon, je vais sonner à la porte, parce qu'il y a quelqu'un qui arrive à 5h30. Alors, ça tourne.
À ma 50e chambre d'hôtel. Je n'aime pas les nazis ne m'aiment pas. Mais j'aime voyager, et les nazis me font voyager.
Au pays utopique des écrivains. On est quand même loin encore.
On aimerait tellement croire à tout ça et avoir un peu de repos.
Tous ces ouvriers qui lisent, quel enthousiasme.
Tu as bien appris ta leçon, petit soldat du parti. Tout ça me rappelle un peu trop le fascisme. Je te resserre, Miro.
Merci. Sauf qu'il n'y a pas de passion négative ici. À la première du moulin. On va appeler Eri pour savoir comment ça s'est passé.
Téléphoner ? Ton optimisme est révolutionnaire. C'est communiste. Appeler un avion Maxime Gorky et faire sauter des gamins de 8000 mètres.
Je le mettrai dans mon article. Ça donnera une belle page. Tu sais, Klaus, ce qui m'intéresse, en fait, c'est la musique de la langue. Mon rêve serait d'écrire un livre qui ne parle de rien.
Non. Il faut rendre témoignage. Assez d'insouciance. Il y a des gens qui croupissent en prison, peu importe la musique de la langue. C'est comme mon père. J'admire mon père, mais je ne comprends pas pourquoi il n'a toujours pas pris de position.
Klaus, quand je dis sur rien, je veux dire sur la vie. Ce qu'elle a de plus intime.
Excuse-moi, Niro. L'espace s'est tellement rétréci, ces chambres d'hôtel, ma vie sentimentale en miettes, des relations qui ne durent pas, qui ne commencent même pas, alors que je suis prêt. J'ai 27 ans.
Klaus Line, tu veux qu'on sorte ce soir? Je vais préparer du thon.
Très bien, merci beaucoup, c'était très bien. Sur l'histoire de la musique de la langue, peut-être on va reprendre ce moment-là.
Oui.
Il faut essayer autre chose, mais juste pour essayer comme ça. Hein. Quelque chose de plus chuchoté peut-être.
Okay.
Voilà, on va commencer là. Je le mettrai dans mon article, ça donnera une belle page. En fait, je vais vous lire une phrase qu'elle écrivait donc, quand elle avait 19 ans, non, 20 ans. Dans la musique, il n'y a aucun événement, et pourtant elle nous bouleverse. J'aimerais écrire un livre que l'on pourrait lire à voix haute, très lentement, et où chaque phrase, même incohérente, serait musicale et belle. Voilà. Donc, hello.
Allez-y.
Alors ça, évidemment, ça fait hérisser les cheveux sur la tête de Michael Klaus.
Je vais me hérisser au maximum, une sorte de défrisage.
Et du coup, vraiment, voilà, c'est quelque chose de très profond. Tu prends le temps, ça y est, je suis repartie avec mon tutoiement, vous prenez le temps, et voilà, essayez de trouver quelque chose qui montre que c'est vraiment voilà, une chose à laquelle, en fait, depuis l'enfance même, elle est là-dedans, elle a toujours été là-dedans. C'est une musicienne, hein, Anne-Marie. Alors, allez-y.
Je le mettrai dans mon article. Ça donnera une belle page. Tu sais, Klaus, ce qui m'intéresse, en fait, c'est la musique de la langue.
C'est la musique de la langue.
Mon rêve serait d'écrire un livre qui ne parle...
Mon rêve serait d'écrire un livre qui ne parle de rien.
Klaus, quand je dis sur rien,
Klaus,
je veux dire sur la vie.
Quand je dis sur rien, je veux dire sur la vie, ce qu'elle a de plus intime.
C'est une photo incroyable parce que vraiment c'est Marianne Breslauer qui l'a faite, qui est une photographe qui était très, très amie de Anne-Marie, et elle a vraiment su capter vraiment la personnalité là. Ah, c'est incroyable
parce qu'il est objectivement superbe, c'est un garçon, ça en fait une femme complètement atypique. Oui. Mais là, c'est magnifique, c'est très beau, très troublant, alors que là c'est beaucoup plus féminin.
Thomas Mann a dit quand il l'a vu, vous feriez un garçon d'une grande beauté.
Débrouille-toi avec ça. Et là, dans sa voiture, avec ce beau morceau.
Là, dans sa voiture, alors, elle avait toujours beau. Des voitures sublimes. Hein.
C'est et super, on dirait un jeune héritier dans la jeunesse dorée.
Oui, mais ce qu'elle était, d'une certaine
ouais,
manière.
Hein. Complètement.
Ses parents étaient très riches.
On dirait qu'elle a 12 ans, là.
Oui, c'est, oui, c'est sa façon de se tenir, comme ça.
Oui, très enfantine.
Les genoux croisés.
En dedans.
Par terre.
Très mignonne.
Et là,
l'écrivaine,
voilà,
à la table. À quoi bon me renfermer en moi-même? Je suis froide. Ma propre froideur me glace. Et la glace est solitude. Je laissais les pensées entrer et... Elles me réchauffèrent. Je pris la plume une fois qu'elles furent toutes arrivées et me voilà assise à ma table en train d'écrire. J'ignore ce que j'écris. Je ferme les yeux et des images fondent avec la glace. Avant que je ne les quitte, elles deviennent des mots. Et je ne sais pas si quelqu'un peut les lire. Ceux qui entrent dans ma chambre, ils pensent que je suis malade.
Véronique Aubouy, la réalisatrice du film.
Oui.
Et ça, c'est Véronique Lamandeau qui est mon assistante.
D'accord.
Qui a pris le compto. On prépare un film qui s'appelle Inconsolable.
Oui.
Qui raconte la vie d'Anne-Marie Schwarzenbach en 10 journées.
Ah, d'accord.
Voilà. Okay, et donc, attends, je vais fermer la porte parce que je vous laisse vous débrouiller avec le thé.
Mais c'est un long métrage, non ? Ou pas ? Oui, d'accord.
Voilà, c'est un long métrage, absolument.
Oui, ouais. D'accord.
Dans lequel je m'attache particulièrement à parler de la jeunesse et de ces gens, en fait, dont faisait partie Anne-Marie, dont faisaient partie ses amis Klaus et Erika Mann, qui sont les enfants de Thomas Mann.
Oui. Hein,
que Anne-Marie appelait le magicien. Et donc, en fait, ce sont des gens qui, des intellectuels, donc qui ont, des jeunes intellectuels, qui ont vécu leur jeunesse entre les deux guerres, en fait. Oui, François, il y a une comédienne qui vient ici à 18h30, donc si tu veux repasser à ce moment-là. Hein. Bon, ouais. Bye bye. Merci Naïma.
Ciao. Merci. C'est gentil.
Et le personnage d'Anne-Marie Schwarzenbach, vous le connaissez ?
Je ne le connaissais pas, mais maintenant je le connais très bien.
Bon.
Mais oui, maintenant oui.
Qu'est-ce qui vous inspire ? Vous vous sentez proche de lui ?
Du personnage, oui. Je sens qu'on a des choses en commun, par la fuite, par l'écriture, la photographie, et aussi par les hospitalisations et l'addiction, la dépendance à une drogue. Voilà.
Ah oui, ça fait beaucoup.
Oui.
Vous embrassez à peu près tous les thèmes, tous les grands thèmes de la vie d'Anne-Marie, là. Et vous avez peut-être une mère castratrice aussi ?
Alors, voilà. Alors, ma mère, elle n'est pas castratrice, mais elle a voulu beaucoup trop m'aider, elle m'a beaucoup trop aimée. Et ça, ça m'a fait beaucoup de mal. Voilà, c'est ça. Je l'ai beaucoup trop aimée aussi. Et elle n'est pas aussi imposante que la mère d'Anne-Marie. Mais j'ai eu des relations très difficiles.
Vous pouvez nous raconter un souvenir avec votre mère ?
Oui. Un souvenir dur ? Ou un souvenir...
Un souvenir marquant ?
Alors oui, un souvenir très très marquant. C'est le moment où j'étais très malade. J'étais psychologiquement très très instable. Et ma mère, après de nombreuses années de vouloir tout le temps m'aider, a décidé de me laisser tomber. Et là, elle m'a abandonnée. Et je me suis retrouvée dans un hôpital seule pendant très longtemps. Oui.
Vous pourriez nous raconter autre chose, une autre histoire qui serait peut-être colorée de la vie d'Anne-Marie comme si vous étiez Anne-Marie, en fait.
D'accord, oui.
Mais aujourd'hui, c'est ce que j'aimerais bien, si vous pouvez... c'est vraiment vous employiez des mots très contemporains.
D'accord. Voilà, de la langue courante.
Oui, de la langue courante. Voilà, c'est pas. Vous ne direz pas j'ai envoyé un pneu, mais j'ai envoyé un mail, par exemple.
Ah d'accord, je sais. Je n'avais pas.
Oui,
compris.
Un pneu. C'est un mauvais exemple. Ou un télégramme ou un pigeon. Un pigeon voyageur.
D'accord. Oui. Alors, soit je ne sais pas, je peux raconter quelque chose en amour ou quelque chose voyage.
Je sais pas. Voyage, c'est bien.
Voyage.
Mais alors vraiment, par contre, ce que je voudrais vous demander, c'est que il y a une forme un peu excessive.
D'accord. Alors, c'était il y a un an et demi. Oui, c'était il y a un an et demi. Moi, j'étais chez mes parents. Ça faisait plus ou moins 6 mois que je ne sortais pas de ma chambre. Et bon, avec ma mère, on parlait pas, mon père non plus, mon petit frère avait honte de moi. Donc j'avais des idées très très noires. Donc j'ai décidé de partir du jour au lendemain et j'ai pris un train à Hendaye, non, si, à Irun. Et je suis partie au Portugal, comme ça. Et comme j'avais vu une annonce sur internet d'une ferme où ils avaient besoin d'aide, je me suis mise à travailler là-bas. Ça s'est bien passé, ça s'est pas du tout bien passé, mais pour moi c'était bien parce que au moins j'avais une raison de vivre. Et j'étais allée avec mon appareil photo et je faisais un reportage sur le petit village où j'étais pour la mairie. Et j'ai sombré dans la dépendance des médicaments. La nuit, je me levais et sans qu'on me voie, ben j'en prenais pour être shootée parce que je pouvais pas faire autrement. Mais bon, la journée ça allait plus ou moins. Et donc la femme chez qui j'habitais, la fermière, elle était écrivain, journaliste, mannequin, faisait plein de choses et très très engagée politiquement. Finalement, je suis restée là-bas un mois et demi. Et j'ai commencé un peu à me dégrader, mais et je suis tombée au plus bas. Et paradoxalement, c'était justement cette histoire, ce voyage aussi, qui m'a sortie de moi-même et qui a fait qu'après, je recommence de zéro. J'ai touché fond et j'ai rebondi. Et après, un an après, j'étais au mieux, j'étais guérie.
Cette femme, alors,
oui.
Vous aviez quel type de relation avec elle? Enfin, êtes-vous... Parce que Anne-Marie, souvent,
oui.
Elle est fascinée comme ça par des figures féminines fortes. Oui. Et même, enfin bon, à tout moment de sa vie, en fait, quand elle avait des rechutes, justement, elle rencontrait des femmes comme Ella Maillard ou comme une femme qu'elle a rencontrée quand elle est allée au Congo, qui vivait au fond de la brousse. Toute seule, qui tenait comme ça une grande propriété avec des animaux, et elle dirigeait tout ça. Et donc Anne-Marie prenait souvent modèle comme ça de ces femmes-là, qui étaient un peu des mères de substitution.
Oui.
Ah. Et ça l'aidait à s'en sortir. Donc vous aviez quel type de rapport?
C'est très drôle ça, parce que c'est ce qui est arrivé.
Aide-moi, Harry.
Tu es notre petite Suissesse.
J'ai de la fièvre, je ne veux plus penser, j'ai peur. Tu as vu ce qui s'est passé avec Madeleine? Où est Klaus? Non, Fritz, où est Fritz? C'est lui qui a le ton, il est parti?
Il va sûrement revenir.
Tout le monde me laisse toujours, j'ai mal partout.
Calme-toi, Miro.
Non! Mais qui est cette femme?
Comment? Je n'ai rien fait.
Qu'est-ce que vous faites là? Laissez-moi!
On va allumer une petite lumière sympathique.
Je ne suis pas, premièrement, actrice. Et j'aime beaucoup faire ça. J'ai fait du théâtre, surtout avant de partir de Suède. Mais sinon, je travaille beaucoup avec les langues, je fais de la traduction. Et j'ai connu Anne-Marie Schwarzenbach. Par vous, par ce projet, et depuis, elle me passionne un peu aussi, forcément, et ça a été vraiment intéressant pour moi de la découvrir et de me retrouver aussi un peu en elle.
Qu'est-ce qui vous fait vous retrouver en elle?
Je pense Premièrement, c'était le physique, que je lui ressemble un peu ou elle me ressemble un peu. Et le fait peut-être de vivre un peu en expatrié, ça peut être ça, par exemple. L'esprit garçon manqué, même si j'ai jamais vraiment cherché ce style, si on va dire ça, mais parce que c'est quand même... Oui, les gens me prennent souvent pour un garçon, alors que je n'ai jamais fait rien pour...
Vous êtes très féminine, surtout. Mais comme Anne-Marie aussi, elle était extrêmement féminine.
On écoute les passages ou pas ?
Ah oui, ça serait peut-être pas mal qu'on écoute qui c'est. Alors attends, qu'est-ce que j'aimerais bien ? J'aimerais bien écouter moi la scène. Comment il s'appelle ? Michael.
Oui.
Et c'était pas la scène du coiffeur, c'était la scène de Klaus qu'ils ont fait.
Oui, oui, oui.
Sophia, Michael, et ensuite Michael et Anne-Léonie.
Ah oui.
Toujours sur la même scène de Klaus.
Ouais, ça c'est drôle ça. Ça, c'est le hasard du casting, mais quand même, Michael, on a dans deux rôles différents.
Oui.
C'est drôle.
Sur un même texte avec les deux rôles. Et peut-être écouter Sophia, Michael.
Dans Klaus.
Oui.
Il faut accélérer.
Je suis reconnue que ce n'est pas Michael. Ça n'allait plus finir. La journée de la jeunesse. Enfin, je croyais que ça n'allait plus finir. La journée de la jeunesse. Les divisions d'ouvriers, les travailleurs de métro.
À ma 50e chambre d'hôtel.
C'est pas ce
qu'elle
appelle.
Pas les nazis ne m'aiment pas.
Je suis sûre que c'est pas la bonne.
Voyager,
il avait deux,
les
non
nazis me font voyager.
Au pays utopique des écrivains.
On va écouter la deuxième, on va accélérer jusqu'à la deuxième. Tu sais, en fait, elle a une voix d'enfant. Elle a un truc très jeune. Et c'est drôle parce que moi, Anne-Marie, je la vois vraiment avec une voix très mûre.
Ouais, ouais, ouais.
Tu vois ? Mm-mm. Lui aussi, d'ailleurs, Klaus aussi, pour le futur casting.
Oui, oui.
Qu'on fera après.
À la première,
c'est le début. C'est le début, ça.
On va appeler Eric pour ça.
Oui, c'est un petit peu encore avant.
Tu as bien appris ta leçon, petit soldat réparti. Tout ça me rappelle, hein.
Enfin, je croyais que ça n'allait plus finir.
Non, peut-être
qu'on
va reprendre ce moment-là.
Super,
mais,
voilà.
Essayer autre chose, mais juste pour essayer de
faire ça. Ah, ça y est. Fanny,
je... Une fois, on était, c'était avec, pas avec mon copain d'aujourd'hui, mais avec mon ex. Et on avait fait un grand dîner, il avait acheté des huîtres. Et il avait invité ses amis à lui, que je pense qu'on était ensemble depuis peut-être 6 mois. Donc ça faisait quand même un petit moment, mais c'était pas non plus fondé pour de vrai. C'est-à-dire que, oui, c'était quand même les débuts en même temps. On se faisait encore connaissance. Et puis, j'entends un ami de mon copain, donc, qui dit qu'il va partir faire quelque chose. J'ai pas compris ce qu'il allait faire. Et après, j'ai un peu demandé, je me suis dit, mais pourquoi il va partir? Est-ce qu'il va revenir? Il allait acheter de la cocaïne. Et moi, ça m'a, je voulais pas que mon copain prenne de la cocaïne chez nous, même si c'était chez lui. Et, je l'ai supplié de ne pas faire ça et son copain est parti, il est revenu, c'était un peu la fête entre les gens qui allaient prendre de la cocaïne. Moi, j'allais pas en prendre et puis donc mon copain non plus. Mais et j'étais dans une autre pièce et je l'ai entendu se baisser pour renifler. Et je suis devenue complètement furieuse. Je pense que j'ai donné un coup de pied peut-être pour l'arrêter. Et puis, je criais. Là, il devait être peut-être 1h du matin. Il était quand même assez tard. Il y avait donc ses amis qui ont été très stressés justement parce que je faisais un vacarme pas possible. J'ai renversé un litre de lait sur la table de fureur. Et mon copain a essayé de me retenir. J'étais tellement furieuse. J'ai jamais vraiment considéré que j'étais quelqu'un de violente, mais j'ai compris là que j'ai une espèce de violence en moi qui m'a un peu fait peur en même temps. Et je l'ai tapé si dur dans la tête que j'ai encore le doigt qui reste marqué depuis.
Merci.
Ok, allez-y. J'ai fait un article mitigé. Son chasseur solitaire ne m'a pas particulièrement impressionnée. Mais l'interview était passionnante.
Tu vas la revoir.
Mais je la vois. Elle habite à Meetup Street, dans la même maison que Klaus et Derry. Tu sais, j'en ai assez du journalisme. Les magazines, ça n'a rien à voir avec l'écriture. Ça me prend trop de temps. Il faut que je m'occupe de mon livre.
Mais c'était pas forcément contradictoire, Anne-Marie. Tes photos sont géniales. Tu vois des choses que les autres ne voient pas. Tes reportages ont un succès incroyable en Suisse. Tu es une romancière reconnue.
La Suisse ! Un pays qui me fait honte. Qui ne mérite plus le nom de démocratie. Mes parents soutiennent ouvertement les nazis. Tu tentes de chez les nazis. Les relations sont si complexes. Rien ne s'arrange jamais, au contraire. Même l'amitié a une fin. Mais d'avoir de sortir les ailes fort revirde. J'ai envie de plus de simplicité.
Donc je m'appelle Anne-Léonie, ouais, j'ai 25 ans, je suis suisse d'origine, même zurichoise, sur mon passeport. Et j'habite depuis 6 ans à Paris, j'ai fait 2 ans de cours Florent, et là depuis 4 ans, je fais un master en cinéma à la Sorbonne.
Et donc, vous êtes née à Zurich ? Anne-Marie Schwarzenberg.
Je suis née à Bâle, mais je suis de sang zurichois. Et en Suisse, c'est le sang qui compte. Donc, et j'ai de la famille à Zurich, comme Anne-Marie Schwarzenberg.
Et donc, vous connaissez un peu le personnage ?
Oui, je connais la littérature de Anne-Marie Schwarzenberg, parce qu'elle est connue en Suisse. Elle est quand même... connue, et j'ai un ami qui a 85 ans et qui a connu Anne-Marie Schwarzenbach, et donc sa mère avait une liaison avec Anne-Marie Schwarzenbach pendant que le mari était absent.
Magnifique. Mais alors dites-moi, cet ami, vous avez toujours des relations avec lui ?
Oui.
Vous pourriez éventuellement lui demander, parce que en fait la grande question c'est il n'y a pas d'enregistrement d'Anne-Marie Schwarzenbach. Il n'y en a pas de Proust non plus. Mon grand malheur. Et donc, en fait, on ne sait pas. Enfin, voilà. Et là, je suis un petit peu...
Je vais lui demander.
Mais oui, demandez-lui oui. S'il pouvait vous décrire sa voix.
Oui. J'espère qu'il s'en souvient parce qu'il avait 10 ans.
Oui, mais donc, quand même, on ne sait jamais. Si ça se trouve, il va vous dire quelque chose.
Oui, je pense que parce que il était fou amoureux quand il était petit.
Ah, il était amoureux.
Oui, c'était son premier grand amour. Il était complètement fou d'elle quand il l'a vue, quand elle est venue à la maison.
Bon, alors, on va faire un petit exercice.
Oui.
Donc, dans lequel je voudrais que vous me racontiez quelque chose de votre vie à vous. Mmh. Et ce qui est important pour moi, c'est que vous contextualisiez bien la chose.
Voilà. Okay.
C'est-à-dire que vous êtes Anne-Marie Schwarzenbach, hein, c'est Anne-Marie Schwarzenbach qui va nous parler, mais vraiment aujourd'hui.
Mm.
Voilà, essayez de trouver ça, s'il vous plaît.
Donc, hier soir, j'ai fait un dîner avec Charles, Gaël, Laurent et Laura. J'avais tout bien préparé, ils n'ont rien mangé. Je leur ai demandé, mais vous avez déjà pris de la coke avant de venir chez moi ? Vous ne mangez rien. Donc ils m'ont regardé un peu désolé. Alors je leur ai demandé s'ils en avaient laissé un peu pour moi au moins. Et donc finalement, personne n'a mangé. Et on a fini à boire pendant toute la soirée jusqu'à 3h du matin. On a pris de la coke et finalement, Gaël et Laura se roulaient par terre. Moi je regardais Laura et... Ça me faisait un peu chier qu'elle était avec Gaël. Alors que j'aurais aimé que... qu'elle se concentre un peu plus sur moi. Parce qu'en plus, elle sait très bien que... Puis je lui ai déjà avoué que... que je l'aimais bien. Et donc, j'ai parfois l'impression qu'elle me provoque avec ça. De... trifouiller avec des mecs devant moi. Voilà. Donc finalement, tout le monde est parti, je suis restée seule à la maison. Et j'avais rien d'autre à faire que de me coucher, seule, en pensant à Laura.
Mais vous avez conscience du fait qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont amoureux de vous ?
Il y en a qui me le disent, donc oui, je me rends compte. Mais... et je les aime bien aussi. Mais je sais pas, il y a un truc, j'arrive pas à... Je peux les aimer pour leur personne, qui ils sont et tout, mais... Et parfois ça m'arrive de me coucher avec. Mais finalement, j'ai l'impression de faire quelque chose qui n'est pas moi, en fait. Me sens étrangère à eux. Et j'ai plus le sentiment de me sentir d'être proche de quelqu'un, peut-être justement parce que nos corps se ressemblent. Je me sens plus liée physiquement à une femme.
Est-ce que vous pouvez me raconter une histoire qui vous est vraiment arrivée ?
Mais vraiment arrivé ?
Oui, vraiment.
Ça, hier, c'est vraiment arrivé. Sauf que finalement, je n'ai pas fini seule. J'ai fini avec Charles.
Bon, on n'aura pas le temps de faire le débrief ce soir. On fera ça demain.
Autrefois, ce n'était pas imaginable. Ma compagne est juive. Elle a 16 ans. C'est presque une enfant encore. Elle est blonde et plutôt jolie. Elle a un visage ouvert, intelligent. Mais elle est timide, presque peureuse. Et bien qu'intelligente, elle parle bas. Manque d'assurance en société, dans les conversations et la discussion. En fait... elle voulait passer le baccalauréat et plus tard, étudier le latin et le grec. Mais à l'école, elle n'en pouvait plus. Elle était la seule juive. Ses camarades, sans vraiment la maltraiter, la mépriser et l'humilier. D'ailleurs, on l'aurait sans doute recalée au baccalauréat et elle n'aurait sûrement pas pu faire des études universitaires. Au même moment, un jeune garçon en uniforme des jeunesses hitléennes traverse la rue en courant et manque de se heurter à nous. « Ah, France ! Bonjour, France !» dit la jeune fille en rougissant, de joie ou de surprise. Le garçon hésite, puis reprend sa course sans saluer. Eva ne dit rien, elle rougit seulement un peu plus. Cette fois de honte... et de confusion. C'est seulement quand nous arrivons en haut, chez sa mère, qu'elle m'explique comme en passant. Le garçon que nous avons rencontré tout à l'heure, France, c'est un camarade de classe. Il habite ici, dans le même immeuble que nous, au premier étage. Avant, c'était mon meilleur ami. C'est pour ça que je lui ai dit bonjour avec autant de chaleur. C'était stupide de ma part. Je sais bien qu'il ne peut pas me saluer quand il porte l'uniforme. Une juive est en pleine rue par-dessus le marché. Il n'aime pas bien chez en France. C'est juste gênant pour lui de me rencontrer. Aussitôt après, on sonne à la porte. Eva court ouvrir. Sur le seuil, en uniforme brun, se tient Franz, son meilleur ami. Pendant un instant, ils se regardent sans rien dire, comme s'il leur fallait se reconnaître après une longue séparation. Puis le jeune homme entre et essaie de prendre un air dégagé.
Ouais, je pense qu'on va lui demander de revenir du coup demain. Hein, mm-hmm. Parce qu'elle est vachement bien.
Ouais.
Elle monte à cheval, alors on pourrait peut-être en profiter. Mm-hmm.
Silt Baselgia. Le 23 mars 1941. Ma chère Ella, vous avez eu, je l'espère, ma dernière lettre d'Amérique. Vous remerciant de votre bonne longue lettre de Thiruvannamalai. Arrivé en US, juste quand je payais un prix sévère pour une catastrophe d'ordre personnel, privé, dont je ne me suis pas montré maître, c'est mon frère qui m'a aidé d'en sortir. Au moins extérieurement. Le reste, it was up to me. And I don't think for once that I abused. Je suis donc partie, dans des circonstances très douloureuses, mais j'étais libre. Et j'ai pris mon courage à deux mains. J'habite à Londres. Je suis arrivée l'été dernier, en juillet 2012, dans le quartier de Whitechapel que je ne connaissais pas. C'est le quartier indien pakistanais. Donc je sors du métro, je fais quelques pas et je me retrouve en face d'une grande mosquée, toute de briques. Et c'est comme si il y avait là une fusion architecturale entre un symbole religieux, un lieu de culte musulman et l'unité première qui constitue l'architecture de Londres, la brique. Je débarque et déjà... l'idée d'intégration prend un tout autre sens. Je continue de marcher. Il y a des femmes en niqab. Il y en a beaucoup. La dernière fois que j'en ai vu autant, c'était à Istanbul. Elles sont là, dans l'espace public. Elles font leurs courses. Elles prennent le métro, au milieu des autres femmes. Et en Angleterre, à la différence de la France, il n'y a pas de loi sur le port de symboles religieux. Et à Londres, ma banquière porte le voile, ma caissière porte le voile, mes voisines portent le voile, et tout le monde s'en fiche. Alors je m'interroge sur les figures du féminisme en Europe. Et un autre exemple, à l'extrême opposé, sont les fémènes, qui utilisent leur corps nu, leur poitrine, comme objet pour véhiculer un message. Et je me demande quelle lecture est faite de ce corps. Est-ce que c'est pas le corps-objet qui est lu en premier? Alors je me questionne, et peut-être que je me sens plus proche de ces femmes qui portent le niqab que des fémènes qui affichent leurs seins nus.
Fanny ? Oui, bonjour, c'est Véronique. Voilà, alors on n'est pas à l'arrêt du tramway, comme je vous disais hier. En fait, on est 25 avenue Corentin Cariou dans un café. Voilà, parce qu'en fait, on va faire l'interview dans un café. Ça va être bien. Voilà. Ok ? D'accord, super. À tout de suite.
En
la différence entre les hommes et les femmes, mais je crois que ces différences sont absolument sociales et créées par la société. Je trouve que c'est inutile et pas bien de figer surtout les enfants dans ces moules de genre, en fait, où on se dit tu es une fille, tu es un garçon, et parce que tu es fille, tu dois faire d'une certaine manière, tu dois t'intéresser à ça. Et je pense que c'est aussi oppressant pour les hommes que pour les femmes. Je pense que ça l'est. C'est peut-être plus grave pour les femmes parce que les femmes se retrouvent victimes dedans. Après, on peut dire que les hommes se retrouvent victimes de rôles méchants aussi, ou de rôles froids. J'ai l'impression que les Françaises, elles se disent « je suis comme je suis moi-même, j'ai envie d'être femme, donc je suis femme ». Alors que moi, je me dis « j'ai envie d'être moi, mais la société a fait de moi une femme et maintenant c'est plus facile pour moi de faire dans ce moule ». Et quand je me définis politiquement, je dis féministe en premier rang. Parce que je pense que tout dépend de ça, finalement. L'inégalité entre les hommes et les femmes, pour moi, c'est le plus fondamental du monde. Parce que ça existe partout. Et parce que, oui, c'est le plus. C'est tellement fondé dans l'intérieur de nous que c'est très difficile de s'en séparer. C'est très facile de dire je suis antiraciste, je suis contre la violence, je suis. Mais c'est les mécanismes ou les structures oppressants à cause du genre, c'est difficile de mettre la main dessus et c'est difficile aussi de les rompre, et parce que ça fait mal aussi.
Il y a des hommes qui. Des hommes un peu macho qui associent souvent féminisme et homosexualité.
Pour moi, c'est insensé, enfin, ça n'a rien à voir. Mais même. Et même, j'ai beaucoup réfléchi à ça parce qu'avant, j'avais vraiment beaucoup d'amis homosexuels. Avant, comme ça. Enfin, mais c'est vrai que j'ai un peu perdu contact avec ce mot, enfin, ces cercles-là. J'ai beaucoup réfléchi, parce que si comme moi, je dis que le genre est construit, on n'est pas femme, on le devient, on n'est pas homme, on le devient, alors c'est pas très important finalement si on a un sexe féminin ou masculin. Dans ce cas, l'homosexualité ou l'hétérosexualité n'est pas très importante non plus. On tombe amoureux de quelqu'un ou d'une personne et non pas d'un sexe. Des fois, je pense que l'homosexualité est plus politique que sexuelle, en fait. Plus, c'est un choix de ne pas faire comme les autres. Et je trouve ça très bien.
Je monte, je monte depuis ma plus petite enfance, parce que bon, ma mère m'a fait monter depuis toute petite. C'est une grande cavalière et oui, les chevaux, c'est une de mes passions.
Vous avez appris des textes par cœur pour ce casting?
J'ai appris par cœur la scène Jalon de coiffure.
Vous seriez capable de la dire en montant à cheval?
Oui, bien sûr.
Ah bon.
Par contre, j'ai pas de réplique.
Non.
D'accord, c'est pas grave.
Antica. Allez, ma petite. J'écris un article mitigé. Son chasseur solitaire ne m'a pas particulièrement impressionnée. Mais l'interview était passionnante. Avance. Ah, mais je la vois. Elle habite à Midascrit. Dans la même maison que Klaus et Erika. Tu sais, j'en ai assez du journalisme, les magazines. Avance. Ça me prend trop de temps. Ah oui, tu veux pas. Tu veux pas? Mes parents soutiennent les nazis.
Anne-Marie?
Oui?
D'accord.
La Suisse.
La Suisse. Un pays qui me fait honte, qui ne mérite même pas le nom de démocratie.
Le texte.
Mes parents soutiennent les nazis. Les relations sont si complexes. Et rien ne s'arrange. Bien au contraire. Même l'amitié a une fin. J'ai envie de plus de simplicité. J'ai écrit un article mitigé. Son chasseur solitaire ne m'a pas particulièrement impressionnée. Mais l'interview était, quant à elle, vraiment passionnante. Ah mais je la vois, la Mitamida Street, dans la même maison que Klaus et Erika. Quoi ? La Suisse ? Allez ! Un pays qui me fait honte ! Qui ne mérite même pas le nom de démocratie ! Mes parents soutiennent les nazis ! Ah, les relations sont si complexes et rien ne s'arrange ! Au contraire ! Même l'amitié a une fin. J'ai envie de plus de simplicité. Et ma mère, qui m'oblige, je monte à cheval depuis petite. La relation, le cheval, la compétition. Mais j'en ai rien à battre, au moins. Qu'est-ce que... Être enfermée, obligée. Allez ! Obligée. Obliger un animal, sauter. Mais pourquoi cette droiture? Plus droite, Anne-Marie. Plus les jambes, serre les jambes. Regarde l'obstacle. Saute. La jument, toi, doit te.
Top!
Écoutez. Ok.
Vraiment.
Ok.
Vraiment.
Allez, Chica, oui, bien.
C'est bien, c'est bien. Je vous remercie beaucoup.
De rien. Allez, on y va. Allez.
Ok, on va à l'écurie. On va libérer le terrain.
Voix d'Anne-Marie, avec Naïma Benayed, Maria Carretier, Sophia Ephraimson, Michael Delis, Fanny Thornberg et Anne-Léonie Auer. Merci aussi à Morgan Hans. Musique, François Marcelli Fernandez et Lamshon Nguyen, Owen Temple Quartet. Extrait du scénario Inconsolable, écrit par Véronique Aubouy et Daniel Voust. Attaché de production, Inès De Bruyne et Alice Ramon. Coordination, Irène Omelianenko. Prise de son et mixage, Philippe Bredin et Adrien Roch. Réalisation Véronique Lamandou. Les voix d'Anne-Marie, un documentaire de Véronique Aubouy.
Vous écoutez Création On Air. Nous nous retrouverons samedi 30 juillet à 21h sur France Culture pour Rien que la nuit par Lise Marie Barré et Annabelle Brouard.